Salut, c'est Cédric, freelance et fier de l'être. Dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience aux témoignages d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance.
Shortcut, 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 Shortcut,
ton raccourci vers l'indépendance.
Aujourd'hui, je suis avec une personne qui m'a dit un jour « Tiens, ça serait intéressant de faire un épisode de podcast pour parler des yeuves qui sont freelance dans un monde de Jones. » Eh oui, Yeuve et Jones dans la même phrase, c'est une sacrée boumeuse. Mais c'est surtout une ancienne big boss du salariat qui s'est reconvertie en freelance et podcasteuse et qui vit à 100 à l'heure malgré son grand âge. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de ce que le salariat lui a apporté pour son lancement, de l'état d'esprit dans lequel elle était avant de se reconvertir et de la manière dont elle s'y est prise. On est avec Flavie Prévost dans Shortcut. On commence par son histoire, qui elle est et comment elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui.
Je suis Flavie, j'ai 37 ans, je suis une jeune freelance. J'ai quitté mon CDI il y a quelques mois pour me lancer dans la vie de freelance. Et voilà, bah, je fais plein de trucs dans la vie, on va en parler, mais en gros, je suis directrice commerciale en freelance. Une fonction d'ailleurs aussi, c'est marrant, le freelancing s'élargit à des fonctions un peu plus régaliennes dans l'entreprise qu'avant, on n'aurait pas trop confié à des gens externes à l'entreprise, donc c'est drôle aussi. C'est ce qui m'intéresse aussi dans ce secteur. Et puis voilà, je suis aussi podcasteuse comme toi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que j'écoute Shortcut. Et moi, j'ai créé le board Entreprendre Bien Entouré, un podcast dans lequel je raconte comment je me forme en tant que solopreneur. Et j'avais besoin de créer ce podcast pour montrer aussi que voilà, on peut se lancer dans le soloprenariat, dans le freelancing, passer un certain âge. Et c'est OK, tant qu'on est bien formé, tant qu'on est bien entouré. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu créer avec le board. C'est voilà, un peu mon collectif d'experts qui m'aident toutes les semaines à me lancer dans cette aventure et à faire fructifier mon business. C'est trop marrant quand même que maintenant je sois freelance, parce que j'allais dire, je suis un peu une ex-dirigeante en grande boîte classique, en corporate, qui est un peu mal tournée, parce que normalement, j'étais un peu sur la rampe de lancement pour continuer, tu vois, dans des fonctions de direction d'entreprise classique. Donc, j'ai fait une école de commerce, des stages et des apprentissages dans des grands groupes. J'ai travaillé dans des très gros groupes, comme par exemple La Poste ou Sixte, qui est un grand groupe de mobilité internationale. Et j'étais membre de comité de direction dans ces différents groupes à différents niveaux, régional puis national au niveau du pays de la France. Voilà, donc ma carrière, c'était directrice commerciale, manager des opérations et du terrain. Donc, j'ai en plus managé des grosses équipes et des gros réseaux de points de vente jusqu'à à peu près 500-600 personnes. Et voilà, et participé à ces instances de direction où on définit la stratégie de l'entreprise, comment on va la faire évoluer, tout ça. Donc voilà, carrière très classique dans le corporate. Et en même temps, c'est ça aussi, je pense, qui m'a donné l'intérêt pour l'entrepreneuriat et tout ça. Parce que quand on est à ce niveau de poste-là, ben, on a besoin à la fois de savoir manager, de s'intéresser aux innovations, de travailler avec plein de personnes différentes, notamment des freelances, des consultants, tout ça. Donc, j'avais déjà dans ma carrière pas mal de relations avec, certes, des salariés, des gens de mon équipe, mais aussi des personnes autres dans mon entourage et surtout en tant que directrice commerciale, par exemple, des clients qui travaillaient dans d'autres verticales, dans d'autres industries, dans d'autres villes. Et ça, je pense que ça m'a façonné un peu une ouverture d'esprit qui m'a donné envie d'aller voir ailleurs aussi comment ça se passe dans d'autres formes de business. Tu vois, quand je suis partie en freelance, j'ai presque eu honte de ma raison, parce qu'en gros, comme j'avais déjà un poste super sympa, j'étais déjà vachement autonome, donc j'étais pas moi sous l'emprise d'un manager toxique ou avec des micromanagers. J'étais déjà un peu mon propre chef, si tu veux, quand t'es membre de comité de direction, t'as personne qui te dit ce que tu dois faire, à quelle heure tu dois partir du bureau. Donc, je vivais déjà bien mon salariat, j'étais autonome, je gagnais de l'argent, j'étais reconnue, enfin, tout se passait bien. Mais moi, ce qui a été mon déclencheur, c'est que je me suis dit, c'était pas la liberté d'agir, c'était plus la liberté, la créativité en fait. Et du coup, j'ai été très créative dans ma carrière, tout allait bien et je suis partie en bons termes et tout. Jusqu'au Covid, donc là, créativité maximale parce qu'il a fallu tout changer, la façon dont on formait les équipes, les produits qu'on vendait, comment on les vendait et tout. Par contre, quand on est revenu post-Covid, là, ça m'a fait un choc. Ou en gros, on est revenu 2 ans ou 3 ans en arrière, en termes de chiffre d'affaires, de process. Il fallait recruter les personnes qu'on avait laissées partir. Il fallait tout remettre en place, les process et tout. Et moi, la répétition et tout, c'est pas trop mon truc. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, Flav, vas-y, prends ton courage à deux mains. T'as des idées, t'as commencé à te former grâce à ton side project, le board, etc. Ça t'a montré que. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à choisir la bifurcation. Donc voilà, pour la liberté, je dirais pas forcément d'agir, mais pour la créativité retrouvée, et puis aussi l'envie de, comme j'ai toujours fait dans ma carrière, tu vois, de travailler dans différentes verticales, dans différentes industries, parce que je trouve que quand tu bosses dans plein de domaines d'activité, c'est toujours ça qui va te donner des idées que tu n'aurais pas forcément eues, des idées de pricing, des idées de produits, des idées d'argumentaire. En fait, c'est ce petit pas de côté en changeant d'univers qui peut te permettre aussi de rester créatif, je trouve.
Personnellement, j'ai énormément appris du salariat pour mon aventure de freelance. Sans les 7 années que j'ai passées en start-up, je n'aurais pas pu me lancer et progresser aussi vite. Cela pose la question de ce que l'on peut tirer du salariat au moment où l'on se reconvertit en freelance.
J'ai plein de trucs à partager, un peu pour ceux qui se posent la question de se lancer. En fait, je trouve que les deux sont bien, les expériences en tant que freelance et les expériences en tant que salarié. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en tant que freelance, t'as certes une multitude d'interlocuteurs, ça va vite. T'enchaînes les clients et les verticales différentes, donc tu te fais vite un portfolio diversifié. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas toujours. Hein. Ce n'est pas toujours du repeat business, tu ne bosses pas avec les clients pendant 4 ans et tout. Alors que quand tu es salarié et que tu travailles sur des projets, notamment quand tu es chef de projet, manager, directeur ou responsable de certaines activités, tu lances l'activité, tu l'exécutes, tu construis et tu vis avec les conséquences, donc tu peux voir vraiment si ta stratégie, elle va marcher de A à Z. Et si tu veux, moi, quand j'ai construit une stratégie de politique commerciale pour une boîte de 600 personnes pendant 4 ans et multiplié par 5 le chiffre d'affaires, bah voilà, je sais que ma stratégie, elle est validée parce que je suis restée, j'ai vécu avec les conséquences, j'ai dû convaincre les gens, etc. Donc, ça m'a rassurée aussi sur certaines compétences. Alors que quand t'es freelance, parfois, c'est un peu plus one shot. Tu fais un truc à un moment dans le cycle de vie du client et après, des fois, tu t'en vas. Enfin, ça dépend de ce que tu fais comme mission. Donc, moi, je pense que les deux sont importants. Et après, ce que j'ai bien aimé aussi dans le truc de freelance, c'est qu'au début, tu prends un peu du tout venant, tu te cales un peu, enfin tu dis oui un peu à tout, tu sais pas exactement finalement quand tu te lances pourquoi les clients vont t'acheter, qu'est-ce que vont faire ta compétence principale. Je te cite un exemple. Moi, j'étais directrice commerciale, je manageais des très grosses équipes. Sauf que quand je suis arrivée sur le marché du freelancing où c'est essentiellement des startups, éventuellement un peu des scale-up qui t'achètent, ils n'ont pas encore d'équipe commerciale. Donc, ils n'avaient pas 500 commerciaux à manager. Donc, ma compétence de management que je pensais revendre, ce n'est pas celle-là que j'ai revendue en premier, finalement. Et celle que je revends le plus, c'est plutôt ma capacité à démarcher des C-level, donc des dirigeants, dans des comités de direction de très grands groupes en chasse directe, tu vois. Et ça, je ne m'y attendais pas. Et en fait, donc, petit conseil aussi quand tu vas te reconvertir, tu pars avec des hypothèses, mais tes hypothèses, tu les vérifies sur le terrain. Donc moi, concrètement, je me suis mis sur Malte avec un peu les trucs que je savais faire. J'ai vu qui mordait à l'hameçon. J'ai fait beaucoup d'interviews clients, ça a marché ou pas marché. À chaque fois, quand ça n'a pas marché, j'ai demandé aux clients pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi ils ne voulaient pas travailler avec moi. Ensuite, j'ai fait des missions et là où ça a fonctionné, j'ai demandé à mes clients ben, qu'est-ce qui t'a plu dans la façon dont on a eu de travailler ensemble, qu'est-ce qui t'a été utile. Enfin, tu vois, j'ai essayé de comprendre un peu quelle était ma valeur sur le marché et maintenant, c'est un peu plus clair. Je ne te dis pas encore que c'est parfait, mais j'ai peut-être eu, je pense, entre 10 et 12 clients de différents personas. Et à force, ça fait des indices. À la fin, ça fait un faisceau d'indices et tu commences à voir qu'il y a, par exemple, 3-4 clients récurrents, qui payent bien, qui sont sympas, avec qui ça marche bien. Et comme par hasard, c'est un peu le même profil. Et c'est à ce moment-là que se dessine à la fois ton marché, ton positionnement, ton prix et tout. Ça... Voilà. Donc au début, c'est normal si c'est le bordel. N'ayez pas peur. Partez un peu tous azimuts et après, ça va se resserrer, ça va faire un faisceau. Et je pense que je ne suis pas du tout encore au bout. Mais je suis contente de ça parce que c'est ça aussi l'exploration.
Après des années de salariat, on a déjà un réseau à disposition. Mais Flavie nous explique que le réseau en tant que salarié et celui en tant que freelance n'est pas exactement le même.
Donc attention, quand tu es salarié, tu as un certain style de réseau, mais tout ton réseau ne va pas te suivre dans ton aventure de freelance. Parce qu'en gros, quand tu pars de l'entreprise aussi, il y a des gens qui ne te suivent plus parce que tu es plus important pour eux ou intéressant pour eux, parce que tu es plus politique, tu ne vas plus les aider. Enfin, tu vois, en gros, des fois, les chemins entre salariés et entrepreneurs, c'est quand même un peu différent. Donc, ils ne vont pas toujours t'aider. Il y en a qui vont t'aider, c'est clair. Après, quand tu es salarié, tu as eu la chance de travailler avec plein de monde qui t'a vu travailler. Et des fois, c'est des gens qui t'ont vu travailler, c'est genre l'assistante de direction, ton collègue du marketing. Enfin, c'est pas forcément ton manager ou tes équipes, mais eux, c'est tes premières recommandations parce qu'ils vont dire que t'es sympa, que t'es pro, que t'étais toujours souriant, etc. Donc, dès qu'ils entendront parler d'un truc, ils penseront à toi et ils vont te recommander, même si c'est pas des freelances expérimentés. Donc ça, ça aide aussi. Troisièmement, il y a les clients, enfin tes futurs clients. Et là, faut faire attention. Est-ce qu'en gros, tu vas freelancer dans le même domaine que là où tu avais travaillé, c'est pas sûr. Exemple, moi, j'ai bossé dans des très grands groupes et finalement, j'ai freelancé plutôt dans des startups. Donc, des fois, tu vois, le réseau, il va falloir se le reconstituer à un autre endroit. Et donc, tout ça pour dire que dans mon entourage, je m'appuie aussi sur un nouveau réseau que je me crée où je vais contacter d'autres freelances, comme toi, par exemple, Cédric, ou d'autres freelances un peu plus expérimentés, qui vont me renseigner, me donner des tips et tout, et qui vont être un peu mes buddies, et qui vont aussi m'aider dans cette aventure de freelance. Voilà, donc oui et non. Donc moi, je ne me suis pas forcément appuyée sur mon réseau existant pour trouver mes futurs clients. Par contre, ça m'a aidée en termes de crédibilité et de preuve sociale, parce que ça fait déjà des années que je travaille mon LinkedIn pour ma carrière. Donc, j'avais déjà 6, 5 ou 6 000 abonnés. C'était pas pour mon contenu, c'est juste parce qu'ils me connaissaient dans mon travail et tout. Donc ça a été beaucoup plus facile pour moi d'avoir de la visibilité en utilisant cette base que si j'avais dû le faire en sortant d'études et en n'ayant pas de profil LinkedIn. Donc voilà, là ça m'a aidé. Après, j'ai utilisé le podcast aussi pour faire aussi de la preuve sociale, parce que quand tu écoutes un épisode du board, que tu m'entends parler, raisonner, etc., ça t'inspire plus confiance que si tu m'avais jamais vu de nulle part. Et tu vois, souvent les gens ils m'envoient des messages, j'ai bien aimé ce que tu as dit dans tel épisode, alors que je les connais même pas. Voilà, donc en gros, je me suis recréé un peu un réseau particulier pour être prête à freelancer. Voilà. Par contre, les noms des grands groupes aussi et de mes anciens collègues, notamment dirigeants, c'est aussi des gens que je peux solliciter si j'ai besoin d'eux. C'est de la crédibilité, c'est de la prise de référence, parce que tu sais que les marques, elles aiment bien être assurées. Elles savent que tu as bossé dans des marques sérieuses, connues, reconnues. Donc voilà, ça peut aussi faire un peu comme un petit portfolio.
Changer de cap, partir vers l'inconnu à un certain âge avec cette valise, ça a certains avantages. Mais il est légitime de se poser la question du stress financier inhérent à cette nouvelle aventure.
Tu mets le doigt sur un truc intéressant, c'est qu'en gros, quand tu as cet âge-là, c'est à la fois parfait pour se lancer, parce que je vais te raconter, en gros, tu as mis des bases dans ta vie solides, financières et tout, qui sont utiles, et en même temps, super flippant, parce que tu as une grosse solidité financière et tout, et tu vas partir vers l'inconnu total, la fluctuation de revenus qui caractérise le métier de freelance. Alors, pourquoi c'est parfait? Généralement, tu as assez de street cred, tu es quand même à un niveau de carrière où tu as accompli des choses, du coup, t'as prouvé, t'as comme un sort de portfolio qui montre, t'as des gens qui sont ta preuve sociale, des anciens collaborateurs, donc ça c'est vraiment bankable, ça fait que tu vas pouvoir avoir un TJM aussi ou des tarifs un peu plus élevés, un peu plus seniors, donc ça va te sécuriser. Ensuite, t'as fait tes crédits généralement quand t'étais salarié, c'est quand même plus facile et moins adverse que quand t'es freelance pour acheter une baraque. Souvent, tu as fait tes enfants. Enfin, je ne vous enjoins pas à avoir un parcours de vie aussi linéaire, mais bon, moi, je m'étais mariée, j'avais divorcé, j'avais acheté une baraque et j'avais fait des enfants. Voilà, tout ça avant de me lancer en freelance. Je t'avoue que ça m'a un peu facilité la vie, parce que le congé mat quand tu es freelance, ça n'a rien à voir avec quand tu es salarié. Tu vois, tu as moins de sécurité, tu es moins bien payé, tu arrives moins à arrêter tes missions. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, ben, je suis tranquille parce que je sais que j'arriverai toujours à avoir un peu de revenus en mission pour payer ma mensualité. Par contre, avoir 3 ans de bilan pour obtenir un crédit, pour s'acheter une baraque en tant que freelance, c'est quand même autre chose. Ça veut dire que ça reporte tes projets pendant 3 ans. Donc, voilà. Donc, c'est le bon moment pour se lancer parce que tu as déjà, en gros, optimisé tout ce que tu pouvais faire avec le salariat. Par contre, pour la peur financière, ça, c'est simple. Moi, j'ai fait des calculs. Je suis très métrique, arithmétique et tout. J'ai pris une petite feuille et je me suis dit, bon, ben voilà. J'ai besoin de combien pour vivre, tu vois, minimum. Je sais pas, admettons, pour payer mes mensualités, mon train de vie, mes enfants, mes machins, je sais pas. J'ai besoin de 3 000 euros, ok. Je mets une petite sécurité, je mets, mettons, allez, 3 500 euros. Et en gros, pour faciliter le calcul, tu multiplies ça par 2 et c'est ça ton objectif de chiffre d'affaires mensuel. Parce qu'en gros, tu vois, je sais pas, ça dépend des charges que tu as, mais on va dire qu'il va te rester la moitié dans ta poche de ton chiffre d'affaires en tant que freelance. Et voilà, tu as un objectif de chiffre d'affaires. En parallèle, j'ai fait le calcul aussi du temps que je pouvais consacrer et travailler à cette activité de freelance, parce que ça, c'est un indicateur qu'on oublie souvent. Quand tu es salarié, ton temps, il est linéaire. Quand tu es freelance, quand tu es en vacances, tu n'es pas payé. Quand tu as une semaine de varicelle des petits, tu n'es pas payé. Quand il y a les jours fériés, oups, tu l'as oublié, tu ne peux pas délivrer, tu n'es pas payé. Donc, en gros, il ne faut pas imaginer que tu vas travailler 5 jours sur 5. Moi, j'ai fait mes calculs vraiment sur un coin de table. Je me dis que si j'arrive à travailler tout mis bout à bout, vacances incluses et tout, 3 jours par semaine, c'est déjà beaucoup, en fait, tu vois, en exécution de mission. Donc, tu divises ton budget mensuel de chiffre d'affaires par le nombre de jours travaillés et ça te fait un TJM idéal à atteindre. Et là, c'est là que c'est chaud parce qu'il va falloir du coup compléter ton carnet de commandes, trouver suffisamment de clients au bon prix pour pas être overbooké, mais pour pas non plus être en sous-charge de mission. Donc voilà, chacun trouvera sa zone de confort. Je pense que pour un individu qui fait du conseil ou voilà, c'est à peu près besoin de, je sais pas, 4-5 clients à peu près en régulier par mois, ce qui est pas non plus énorme. Mais voilà, faut aussi penser qu'il va y avoir des variations. Et c'est pour ça que je trouve que là encore, c'est un bon moment de se lancer quand tu as déjà été salarié, parce que tu t'es constitué un petit trésor de guerre. Moi, j'ai gardé un petit peu de cash sur mon compte en mode amortissement des fluctuations, si jamais il y a... Parce que tu sais, des fois, tu factures 12 000 euros, des fois, c'est « Ah ben non, ben, j'ai oublié de passer la facture à mon comptable. » Mais t'es sérieux, comment je vais faire pour me payer ? Donc, c'est ça, la vie de freelance aussi. Et puis, t'as rechargé tes droits au chômage, si jamais tu peux. Moi, je suis partie avec une rupture conventionnelle, ce qui est comme nettement plus confortable pour amorcer la pompe, parce que t'arrives pas du tout tout de suite au plateau parfait du freelance bien organisé, avec des clients qui payent bien, qui sont géniaux, sympas et parfaitement dans ta cible. Avant, t'essuies quand même pas mal de plâtre, t'as pas mal de galères, t'as toutes les galères du freelance, en gros, le client qui oublie de te payer, celui qui te paye pas, etc. Donc voilà, mon conseil, c'est ça, c'est de combiner petit trésor de guerre avec un plan financier un peu solide. Ensuite, d'en parler quand même autour de toi avec ton conjoint et comment ça peut bien se passer par rapport à vos différents projets. Et après, quant à ça, t'es rassuré. Et puis tous les mois, tu fais ton point financier, tes objectifs. Et voilà, hein, c'est comme si voilà, ton manager, c'est toi, mais tu fais des points réguliers avec toi-même pour voir où t'en es. Donc du coup, t'es solopreneur, tu dois aussi passer du temps à te former à tes futurs métiers, parce que ça va très vite, surtout dans l'univers du freelancing. C'est pas genre t'as un job pour la vie et tout, tu dois des fois pivoter, tu dois te former à des nouveautés, des nouvelles hard skills par exemple. Moi en ce moment je suis en train de me former au Web3, ben, je prends du temps sur mon temps productif et ça fait plus mal que quand t'es salarié, parce que tu sais les salariés tu te plains, ouais putain j'ai 2 jours de formation, j'avance pas sur ma to-do. Ouais mais ça va en fait les gars, parce que toi quand t'es freelance, quand tu te formes pendant une semaine à des trucs de Web3, que tu factures pas, ben là tu le sens passer en fait. Ta formation elle te coûte littéralement. Donc faut prendre tout ça en compte quand tu te lances. Et c'est aussi je trouve l'avantage de se lancer un peu sur le tard, c'est que moi je trouve qu'on a plus un profil solopreneur que juste freelance. Parce que donc il y a plein de freelances différents qui existent dans la vie. Quand tu es peut-être plus jeune, plus insouciant, tu peux être, je sais pas moi, digital nomade, freelancé, tu prends moins de responsabilités, tu es plus dans l'exécution, tout ça. Quand tu as 35-40 ans, tu sais manager, tu es très expert, tu vas plutôt faire du consulting, des choses comme ça. Mais tu vas aussi réfléchir à la suite. Tu vas te dire, je vais pas freelancer à la journée en mode exécution jusqu'à 60 ans, parce qu'à 60 ans, je sais pas, personne voudra de moi. Ensuite, je suis trop cher pour des tarifs d'exécution, donc il faut que je prenne un peu le lead sur des projets. Et du coup, tu réfléchis en tant que solopreneur en te disant, j'ai mon freelancing, mais je vais aussi développer d'autres formes de revenus qui sont moins time-bounded, c'est-à-dire corrélés au temps passé, mais qui sont peut-être des revenus annexes. Donc tu vois, moi, je réfléchis avec mon podcast, est-ce que ça peut me faire une source de revenus via le sponsoring ? Je donne des cours ou des conférences, ça c'est le truc un peu classique de la plupart des freelances, mais peut-être que tu peux avoir un produit que tu vends en ligne, peut-être, enfin voilà. Et du coup, je trouve réfléchir aussi en tant que vrai chef d'entreprise, comme si ton freelancing, c'était une boîte avec différents produits, différents prix, différents canaux de distribution. Moi aussi, c'est ça qui me fait kiffer dans cette expérience de freelance et solopreneur. Et ça, je trouve que c'est la vraie force de quand tu as déjà été dans une boîte pendant 10 ans, 15 ans, tu as côtoyé la division marketing, finance, la direction générale. Ça t'a appris des compétences de gestion de business au sens large. Et du coup, tu peux plus vraiment t'éclater comme une vraie petite entreprise que juste à exécuter des missions.
Bon, sujet sensible ici. Qu'est-ce qu'un freelance ? Qu'est-ce qu'un solopreneur ? Est-ce qu'on aime le terme solo business ? Ou est-ce que l'on préfère l'hyper-freelance ? Mais le vrai sujet de fond, c'est surtout de bien choisir ta cible, de te positionner dessus et de savoir si tu as envie de diversifier tes sources de revenus ou non. chacun son style et chacun son âge surtout.
Ce que j'aime pas, c'est le côté stressant de si tu pars en vacances, tu gagnes plus d'argent. Ça me stresse un peu et j'avoue, j'ai envie de garder les bons côtés du salariat, c'est-à-dire construire quelque chose de durable qui marche aussi même quand tu dors, quoi. Donc mon idéal, ce serait d'arriver à 50-50, tu vois, à peu près 50% d'activité time-bounded et 50% le reste. Qui est time-bounded aussi, parce qu'il faut que je produise du contenu, il faut que je fasse des choses, mais au moins, c'est plus, je sais pas, c'est mes passions, c'est d'autres choses. Et tu vois, un truc important aussi, que je pense qu'il faut s'autoriser quand tu deviens freelance plus vieux ou plus sur le tard, parce que je suis pas vraiment si yeuve que ça, hein. J'ai plein de potes qui sont beaucoup plus vieux que ça. La décence m'interdit de citer leur âge, mais qui sont géniaux, qui sont freelance, qui sont coach exécutif, qui sont consultants. Enfin, tu vois, c'est aussi le freelancing des plus de 55 ans, par exemple, c'est un vrai levier de croissance, en gros. Quand t'es un peu placardisé ou machin truc, et en fait, t'as souvent de la grosse réserve financière, et là, t'as de la bonne crédibilité, tu peux, si t'es bon, te former et devenir freelance, et ça peut être un super créneau. Donc bref, moi, je pense qu'il faut s'autoriser un positionnement différent. Parce que si tu pars sur le marché en parlant comme des jeunes de 22 ans, avec des emojis, etc., sur LinkedIn, on en parlait, c'est dommage, tu gâches un peu ton positionnement. Moi, il y a plein de marchés super intéressants, par exemple, pour un freelance de 37 ans, de notre profil ou de mon profil. Par exemple, le marché des ETI et des PME, des grosses boîtes industrielles, souvent provinciales, qui n'ont pas l'habitude encore de travailler avec les freelances. On peut les évangéliser au freelancing parce qu'ils ont tout intérêt, parce qu'ils n'ont pas envie de recruter quelqu'un à temps plein. Par contre, comme on est en capacité de ne pas parler qu'avec des anglicismes de start-up style, growth hacker tout le temps, qu'on a vécu la vraie vie, qu'on a managé des commerciaux qui ne voulaient pas bosser, qu'on a vu des vrais clients, etc., dans des vrais bureaux, en fait, on est parfait pour eux. Donc, si tu veux, moi, je ne vais pas aller cibler des start-upers de 18 ans qui vont me dire que je ne suis pas assez hands-on. Mais par contre, je pense que des comités de direction, ou je ne sais pas, le fils du dirigeant familial de la PME qui veut un peu se moderniser, mais qui veut quand même quelqu'un qui comprend le vrai business de la vraie vie, ça sera super bien de bosser avec lui. Ça veut dire que dans ma communication, dans mon positionnement et tout, faut que je m'adapte à ça. Et d'ailleurs, je trouve que sur LinkedIn, il y a des exemples super drôles de gens qui ciblent carrément des seniors, qui sont en photo devant leur bateau en Bretagne, qui utilisent la police Comic Sans, tu vois, et qui sont pas du tout dans des codes licorne, arc-en-ciel et tout. Et c'est OK. En fait, il y a tellement de place, il y a tellement de mini-marchés, de mini-segmentation pour les freelances, que je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un modèle dominant. Il y a peut-être des freelances jeunes parents comme toi et moi, il y a des freelances un peu plus âgés, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc si j'ai envie de vous dire aussi, explorez, vous allez forcément trouver un positionnement qui va être adapté pour vous.
Avant de se lancer, on peut être paralysé par le chemin qu'il nous reste à parcourir. Puis il faut rapidement dégager des revenus, tout en se formant, tout en cherchant ses clients, tout en créant éventuellement un média. Bref, c'est un beau bazar. Mais Flavie te dépanne tout de suite avec ses petites techniques.
J'ai une petite astuce qui pourrait peut-être aider aussi ceux qui hésitent à se lancer parce que, tu sais, le temps de formation par rapport au temps productif et tout. Moi, je ne l'avais pas pensé comme ça au début, mais maintenant, je me rends compte, c'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait du learn in public. En gros, je me suis dit, je me forme à devenir freelance solopreneur. Et c'est pour ça que j'ai créé le board. Tu vois, je faisais des interviews. Et comme je les ai diffusées, ça m'a fait un média qui me fait de la visibilité. Mais en fait, au départ, je l'ai fait pour moi, pour apprendre. Donc en gros, là, je fais d'une pierre deux coups. D'un côté, je me forme. Donc c'est utile. Toutes les semaines, j'apprends des compétences. Et quelque part, je valorise cette formation parce que je récupère des followers, des avis, des recommandations. Donc ça, c'est une petite astuce. Si vous devez vous lancer demain en tant que freelance, documentez votre aventure. Faites du learning public, du building public pour raconter. Ça va vous aider à fédérer une communauté, peut-être à trouver vos prochains clients. Et puis, deuxième astuce, je suis allée dans un incubateur. Donc, quand j'étais encore salariée, j'ai fait une formation chez Willa, l'incubateur des femmes dans la tech. En gros, je suis allée avec un projet d'entreprise qui était un projet de freelancing à peu près. Et en fait, en faisant ça, en faisant cet incubateur, j'ai eu une formation méga accélérée sur tous les trucs de start-up, tout ce qu'il faut pour se lancer vite et bien, qu'on n'a pas trop dans les grands groupes, tu vois. Comment créer une landing page en une heure, comment faire un funnel de machin, comment faire du no-code pour automatiser tel truc. Et ça, c'était trop bien. Et en plus, j'ai découvert un réseau d'autres entrepreneurs. Puis ensuite, je suis devenue coach chez eux. Enfin, voilà. Donc en gros, C'est peut-être une deuxième astuce, c'est qu'il y a des façons de se former un peu express, rapides et qui sont bien pour se mettre le pied à l'étrier, qui ne coûtent pas cher. Et limite, quand tu es salarié dans une entreprise, même des formations comme Le Wagon, etc., tu peux les financer avec ton salariat parce que ça, c'est utile aussi pour toi en tant que, je sais pas moi, chef de service ou manager, et ça te servira plus tard dans ton aventure de freelance. Donc, n'hésitez pas à vous former quoi, dès que vous pouvez.
Le modèle du collectif peut aussi aider à se lancer et à progresser ensemble. Je ne rentre pas dans le détail ici, car il y a déjà des épisodes de Shortcut sur ce sujet, et que je recevrai bientôt Marie Robin dans le podcast. C'est la créatrice du collectif Fleet autour du Web3, duquel Flavie fait justement partie. C'est chaud de se lancer, mais ça se fait. Attention, c'est le mot de la fin.
Ouais, c'est chaud, mais tu sais, je me disais, c'est un peu comme quand t'as des enfants. T'y arrives en fait, et après tu te dis mais qu'est-ce que je foutais avant de mon temps, tu sais. Et moi des fois je pense à ma vie de salarié, je me dis mais qu'est-ce que je foutais, j'étais salarié sans gosse, et là j'ai genre 12 milliards de projets et deux gosses de moins de 3 ans et j'y arrive quoi. Et j'ai quand même le temps de regarder Netflix et d'aller au sport.
Ça te donne des idées ? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.